Vous écoutez On lit pour vous.
Un éléphant nommé TikTok. Un texte de François Cardinal, vice-président information et éditeur adjoint de la presse. Texte publié dans ce journal, édition du 31 mai 26. Imaginez une entité qui vous suivrait partout. Du lit au métro, du déjeuner à la salle de bain. Il noterait ce que vous touchez, ce que vous ignorez, ce qui vous fait vibrer. Qui dresserait à partir de tout cela un portrait de vous d'une précision que vous-même ne soupçonnez pas. Puis, qui vous nourrirait d'un contenu calibré pour vous atteindre là où vous êtes le plus attentif. Vous n'avez pas à l'imaginer, elle est dans votre poche. C'est ce qu'a martelé David Frum à la fin d'avril devant une salle de journalistes réunis à Ottawa par World Press Freedom Canada. L'essayiste canado-américain, fils d'une journaliste, ancien conseiller de George W. Bush, aujourd'hui plume influente de The Atlantic, est venu leur parler de cet objet, de cet appareil qui nous a transformés, de ce téléphone qui, au passage, a redéfini le métier de journaliste. Pendant 40 minutes, Frum a tenu son auditoire en haleine en dressant un portrait dur mais réaliste du monde dans lequel nous évoluons. Un monde dans lequel, guillemets, l'entreprise médiatique la plus puissante aujourd'hui, fin des guillemets, ce n'est pas le New York Times ni le Monde, ce n'est pas ici le Globe and Mail, Radio-Canada, La Presse ou le Journal de Montréal. C'est, citation, de très loin, avec tous les autres loin derrière, TikTok, fin de citation, a-t-il ajouté. Et tout de suite après, peut-être YouTube, peut-être Facebook. Citation, chaque fois que vous entendez quelqu'un faire une généralisation sur les médias, demandez-vous s'il parle de TikTok. Si ce n'est pas le cas, il ne parle pas du monde dans lequel nous vivons. Fin de citation. L'époque du lecteur qui se lève, ramasse son journal sur le perron, la porte dans la cuisine et le déplie devant son café, cette époque-là, a dit Frum, disparaît sous nos yeux. Beaucoup de monde lit encore son édition le matin. Les succès de La Presse Plus le confirment. Les temps moyens de lecture de plus de 50 minutes aussi. Mais la croissance des lecteurs, ce n'est plus là qu'elle se fait. Les moins de 40 ans se trouvent dans deux grandes catégories, selon Frum. Ceux à qui l'information arrive sans qu'ils l'aient cherchée et ceux qui font activement en sorte qu'elle ne leur arrive plus. Récepteurs et éviteurs, en somme. Citation, « Qui allons-nous être dans ce nouveau monde? » a demandé Frum. La question, il la pose aux citoyens, mais à nous aussi, les médias. Parce que son diagnostic est juste, le rituel d'information a éclaté en mille morceaux. Le journal du matin n'est plus seul, le bulletin de 18 heures non plus. À côté, autour, par-dessus, il y a maintenant l'infolettre lue dans le métro, le balado écouté en faisant la vaisselle, la vidéo verticale regardée dans la file d'attente, la notification poussée sur l'écran de verrouillage. Le « short », entre guillemets, partagé dans un groupe Messenger familial, le fil d'actualité qui défile pendant qu'on attend que le café coule. Le lecteur fidèle, on l'a encore. Il vient à nous chaque matin, ouvre l'application, lit jusqu'au bout. Il est précieux. Mais à côté de lui, il y a un autre public qui croit, plus jeune souvent, plus distrait parfois. Plus dispersé, presque toujours. Ce public-là ne viendra pas à nous. Il est ailleurs, dans un flux, dans un fil, dans une plateforme qui n'est pas la nôtre. Et si on veut lui parler, et on veut lui parler, on doit se présenter sous une forme qu'il reconnaît au moment où il est disponible dans le canal qu'il fréquente. Le journalisme de demain sera multiformat et multiplateforme. Ou il ne sera pas. Décliné, ce n'est pas dilué. ce n'est pas se mettre au niveau, une formule que je n'aime pas, qui sous-entend qu'on s'abaisse. C'est prendre la même rigueur, le même travail de vérification, la même exigence éditoriale et l'écouler dans plusieurs formats. Un texte fouillé, un balado, une vidéo verticale, une infographie animée. Le texte reste le cœur de ce qu'on fait. Ne nous y trompons pas. Nous continuons d'être le lieu de l'enquête, du dossier, de la chronique, de la nuance. La vidéo et le balado sont complémentaires. Ils répondent à des besoins différents, ils permettent à des gens de s'engager autrement, ils ajoutent de nouveaux publics à la conversation. Concrètement, à la presse, ce virage a commencé par la recherche pour comprendre nos cibles et la fragmentation de leur consommation, puis par l'expérimentation. Un laboratoire interne, une équipe multidisciplinaire qui a essayé, raté, recommencé, appris. Le tout en continuant les opérations quotidiennes du journal. Quelques mois plus tard, voici où on en est. 3 ou 4 vidéos produites par jour pour un total de plus de 500 vidéos. On a gagné le cœur de plus de 70 000 abonnés sur TikTok et YouTube combinés, ce qui a entraîné plus de 26 millions de visionnements. On a aussi lancé 6 projets balado qui ont rejoint près de 600 000 personnes. Bref, bien des gens qui, autrement, n'auraient pas croisé notre journalisme. Sommes-nous les seuls à faire cela? Non. Mais on le fait à notre façon, avec la rigueur de la presse, en tout respect de nos règles, normes et pratiques. On expérimente avant de pérenniser, parce qu'on veut savoir ce qui fonctionne, pour qui et comment. On veut aussi savoir si on est capable de convaincre ces gens de venir chez nous sur nos plateformes. Le cap ne change donc pas. Ramener ces auditoires vers nos reportages, nos enquêtes, nos grands dossiers, nos chroniqueurs. Déminer les fausses informations là où elles circulent. Donner des repères là où l'algorithme n'en donne plus. Et garder sur chaque format la même signature. Ceci est vérifié, ceci est du reportage, ceci est produit par un journaliste. Bien identifié. Dans un monde où, sur TikTok, une rumeur, une publicité, une enquête sérieuse et une théorie du complot portent toutes les mêmes costumes verticales, ce travail de signalement et de distinction n'est plus accessoire. Il est central. Qui voulons-nous être dans ce nouveau monde? Le même média, sous d'autres formes. Celles qui nous permettent de joindre plus de monde avec rigueur et qualité. Fin de ce texte de François Cardinal titré « Un éléphant nommé TikTok » publié dans la presse du 31 mai 2026.
Près de la moitié des dépenses seraient évitables grâce à nos habitudes de vie. Un texte de Louis Bérère, professeur à l'Université de Montréal, paru le 20 janvier 2026 dans The Conversation. On dépense des milliards de dollars à rechercher la molécule qui soignera la maladie d'Alzheimer. Mais l'adoption de certaines habitudes de vie pourrait, entre-temps, réduire significativement le risque d'en développer les symptômes, jusqu'à près de la moitié des cas, souligne le docteur Louis Bérère dans une entrevue accordée à La Conversation Canada. Professeur au département de médecine de l'Université de Montréal, chercheur et directeur du Centre EPIC, le Centre de médecine préventive et d'activité physique de l'Institut de cardiologie de Montréal, ses travaux portent sur l'impact du style de vie, de l'exercice physique et de la stimulation cognitive sur la santé cérébrale des personnes âgées et des patients atteints de maladies cardiovasculaires. À son laboratoire montréalais, le Dr Bérère et son équipe élaborent des programmes d'exercice tant physiques que cognitifs. Les résultats corroborent ceux d'autres recherches sur l'importance du mode de vie dans la prévention des démences, une donnée négligée par la santé publique, explique celui qui est également directeur de laboratoire à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. La Conversation Canada, LCC, une nouvelle étude de Statistique Canada sur l'espérance de vie en bonne santé, indique un recul substantiel au Canada. En 2023, elle était de 66,9 ans, une baisse de 3,5 ans par rapport au sommet de 70,4 ans atteint entre 2010 et 2012. Ça vous surprend? Dr Louis Bérère. Oui et non. Mais le fait est que ce qu'on appelle « health span lifespan gap », c'est-à-dire l'écart entre l'espérance de vie et l'espérance de vie sans maladie, s'accentue. Par exemple, 9 personnes sur 10 ont au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire après 65 ans. Surpoids, mauvais sommeil, inactivité, hypertension, etc. Comme l'espérance de vie augmente, ça fait plus d'années en moins bonne santé. Notre mode de vie n'est pas optimal. Le stress, l'anxiété augmentent. C'est un fléau. Par ailleurs, les gens sont inactifs. Ils ont des problèmes de sommeil, leur alimentation est négligée, on mange vite, du fast-food ou des aliments ultra-transformés. Pourtant, l'information est là, disponible. Mais on n'adopte pas toujours les actions nécessaires. On ne l'enseigne pas non plus à nos enfants. L'éducation physique devrait faire partie du cursus scolaire au quotidien. Et il faudrait aussi enseigner les bases de la nutrition. Par ailleurs, les gens se tournent vite vers la médication. La popularité de l'Ozempic en est un exemple. On souhaite perdre du poids, mais on ne s'attaque pas aux causes de ce surpoids. On ne fait pas grand-chose pour inciter les gens à changer leur mode de vie. Or, on évalue que près de la moitié des démences, soit 45 % pourraient être évitées avec un mode de vie adéquat. Voici 14 facteurs de risque modifiables qui peuvent contribuer aux démences et qui ont été identifiés par la professeure Jill Livingston de l'University College de Londres. Alzheimer's Disease International. L'inactivité physique, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la pollution atmosphérique, les lésions cérébrales, la faible interaction sociale, le faible niveau d'éducation, l'obésité, l'hypertension, le diabète, la dépression, les déficiences auditives, le cholestérol LDL élevé, la perte de vision. LCC. Bien des gens se disent « J'ai 65 ou 70 ans, il est trop tard pour moi, j'aurais dû commencer avant. » Dr Louis Bérère. Il n'est jamais trop tard, même si on sait que l'éducation, un facteur atténuant des démences, s'acquiert généralement jeune. au contraire des troubles de l'audition qui surviennent plus tard dans la vie. Bien des gens ne les prennent pas tant au sérieux ou les camouflent, et pourtant, c'est un facteur associé à l'augmentation des risques de troubles cognitifs majeurs ou de démence. Et bien sûr, la santé psychologique joue un rôle majeur. Une personne sera inactive car elle se sent un peu déprimée ou moins motivée, mais ça accentue les risques. On ne réalise pas que les facteurs de santé globale sont tous interreliés. La santé cardiaque et cérébrale, ça va ensemble. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. LCC, votre laboratoire axé sur la santé cognitive, est justement installé à l'Institut de cardiologie de Montréal. En quoi consistent vos travaux? LB. À l'aide de programmes de stimulation, on évalue l'impact des exercices sur la santé physique et cognitive. L'âge de nos participants varie entre 50 et 95 ans, avec une moyenne entre 68 et 70 ans. On les suit entre 3 mois et 1 an. Ils peuvent avoir des déficits cognitifs légers, notés par leur entourage, et parfois souffrir d'anxiété, une condition qui peut avoir un impact sur la mémoire et être un prédicateur de démence. D'autres participants n'ont pas d'enjeux cognitifs, mais ils présentent des risques en raison de leur hypertension, diabète, etc. Nos programmes comportent des jeux de mémoire, sur les téléphones par exemple, qui améliorent le côté cognitif, notamment la vitesse psychomotrice, ainsi que des exercices physiques, vélo stationnaire, tapis roulant, renforcement musculaire, etc. Le mieux est la combinaison des deux. LCC, que constatez-vous? LB, on voit des améliorations cliniquement significatives. Des participants qui ont des troubles cognitifs légers peuvent voir des améliorations après 6 mois d'entraînement, des différences au niveau de leur attention, de leur vigilance, de leur vitesse de réponse. Ils sont plus éveillés, et ce, après quelques semaines seulement. On voit aussi un impact sur la mémoire, même si ça prend plus de temps. À l'aide de biomarqueurs, nos recherches tentent de faire le lien entre les paramètres qui changent, tant sur le plan physique que cognitif, et les effets sur le cerveau. Avec l'imagerie cérébrale, on peut mesurer les améliorations du flux sanguin et des structures du cerveau, comme l'hippocampe, par exemple, qui joue un rôle clé dans la mémoire. L'entraînement physique que les participants font 3 fois par semaine stimule la production de protéines qui favorisent la neuroplasticité. Quand les muscles travaillent, ils produisent et libèrent des myokines et d'autres exerkines. Ces molécules jouent un rôle important sur le métabolisme, l'inflammation, la santé osseuse et même l'humeur. Comme on le dit souvent, l'exercice est la pilule miracle pour la santé globale. LCC, bien des gens entreprennent des changements en profondeur de leur mode de vie, mais ces bonnes intentions ne tiennent pas toujours. LB, oui, et c'est dommage, car les effets positifs de l'entraînement disparaissent en 1 mois, 1 mois et demi. Et plus on vieillit, plus c'est rapide. Idéalement, il faut choisir des activités qui s'intègrent facilement dans la routine quotidienne. Je pense à la course, par exemple. Un exercice très complet, très facile à faire, qui ne coûte pas cher. La marche rapide aussi, mais l'idée est de suer un peu et de compléter avec des exercices pour accroître la force musculaire et d'autres pour améliorer la posture et la mobilité. C'est un facteur important d'autonomie en vieillissant. La peur de chuter est une préoccupation pour plusieurs personnes âgées. Les exercices d'équilibre et de contrôle de la posture, comme le yoga, peuvent vraiment faire une énorme différence sur la santé et les habitudes de vie des personnes âgées. C'était « Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie », un texte de Louis Bérère, professeur à l'Université de Montréal, paru le 20 janvier 2026 dans « The Conversation ».
Maître chez nous, un texte de François Cardinal paru le 19 avril 2026 dans la presse. Un élu républicain du Congrès américain a récemment déposé un projet de loi visant la loi canadienne sur la diffusion continue en ligne. Le projet ordonne une enquête sur cette loi votée ici même à la Chambre des communes et prévoit des mesures de rétorsion nécessaires si jamais elle est jugée discriminatoire envers les entreprises américaines. La nouvelle est passée relativement inaperçue dans le tumulte de la guerre commerciale. Pourtant, elle mérite qu'on s'y attarde pour ce qu'elle révèle de vicieux dans les tactiques de notre grand voisin. Commençons par contextualiser la plus récente, pour ne pas dire la énième, attaque américaine. La loi sur la diffusion continue en ligne part d'un constat simple. Les diffuseurs canadiens sont obligés de financer du contenu canadien depuis des décennies. Alors que Netflix, Spotify et YouTube engrangeaient jusque-là d'importants revenus canadiens sans aucune obligation de ce genre. La loi, adoptée en 2023, corrige cette inégalité en exigeant qu'ils consacrent 5 % de leurs revenus canadiens à des fonds de production culturelle locale. Logique, raisonnable. C'était d'ailleurs le même objectif que poursuivait le pays en adoptant la loi sur les nouvelles en ligne. Quand Google ou Facebook affichent des liens vers des articles de presse, comme ceux de La Presse, ils en tirent une valeur publicitaire. Les médias qui ont produit ces contenus ne voient pas la couleur de cet argent. La loi, adoptée en 2023 et attaquée par Washington elle aussi, oblige les plateformes à négocier une compensation avec les organisations de presse. D'ailleurs, Meta ne s'est toujours pas entendu avec Ottawa, ce qui explique le blocage de contenus médiatiques sur ces plateformes comme Facebook et Instagram. Le but, avec les deux lois, est de niveler le terrain de jeu, ou, dit autrement, d'imposer les mêmes règles à tout le monde sur le marché canadien. Or, les deux lois ont été attaquées par les États-Unis comme s'il s'agissait d'actes hostiles envers eux. Que les entreprises visées rechignent et attaquent le gouvernement du Canada, c'est attendu, c'est de bonne guerre. Mais ce qu'il y a de pernicieux dans les réponses qui ont suivi les deux lois, c'est qu'elles viennent de représentants du gouvernement, qui les perçoivent carrément comme des attaques contre les États-Unis. D'ailleurs, rappelons-nous qu'en juin 2025, Ottawa a annulé sa taxe sur les services numériques, redevance de 3 % sur les revenus des grandes plateformes technologiques, après que Donald Trump l'eût qualifié d'attaque directe et flagrante contre les États-Unis et eût rompu toute négociation commerciale. Il y a ici un sous-entendu troublant. Réglementer un secteur économique revient à attaquer les États-Unis. Et donc, dominer un secteur équivaut, dans cette logique, à être ce secteur. Ce glissement produit bien des effets pervers, mais j'en retiens deux. Le plus sournois, ces entreprises privées se retrouvent soudainement protégées par la puissance diplomatique américaine, comme si Netflix et YouTube, des sociétés cotées en bourse étaient des instruments de la politique étrangère des États-Unis. Ainsi, dès qu'un gouvernement étranger ose les réglementer, Washington les traite comme une extension de sa souveraineté. Leur profit reste privé, mais leur protection devient publique et absolue. Et l'effet le plus dangereux, si toute réglementation qui touche une entreprise américaine constitue de la discrimination, alors aucune réglementation contre le rouleau compresseur du Big Tech n'est possible. Nulle part. Le seul moyen d'éviter les mesures de rétorsion nécessaires, c'est de ne jamais réglementer. Ce qui, bien entendu, est l'objectif. Il y a quelque chose de profondément vicié là-dedans. Les États-Unis ont, pendant 3 décennies, laissé émerger un oligopole mondial dans le secteur numérique. Peu de règles, peu de taxes, des concentrations de pouvoir économique sans précédent. Google, Meta, Apple, Netflix valent aujourd'hui plus que le PIB de la plupart des pays du monde. Puis, une fois cet oligopole solidement en place, les États-Unis l'utilisent comme levier de pression contre quiconque ose l'encadrer. La domination devient un droit acquis. Contester ce droit, c'est faire du protectionnisme. Et comme on le sait, dans le nouvel ordre mondial, le seul protectionnisme légitime est celui des États-Unis. Et pourtant, ce que demande le Canada aux entreprises étrangères est d'une banalité désarmante. Quand elles s'installent ici pour vendre des voitures, elles paient des taxes. Quand elles ouvrent un restaurant, elles respectent les normes sanitaires. Quand elles embauchent des travailleurs, elles cotisent aux régimes sociaux. Il n'y a là aucune discrimination. Au contraire, l'idée est d'imposer à tous le même traitement. La loi sur la diffusion continue n'est pas différente. Elle exige simplement une contribution à l'écosystème dans lequel les entreprises tirent leurs revenus, comme le fait la loi sur les nouvelles en ligne pour le journalisme. Réglementer Netflix n'est pas une déclaration de guerre. Encadrer Google n'est pas une provocation. Les lois sur la diffusion et les contenus ne sont pas des actes hostiles. Si on accepte cette intimidation, c'est l'idée même qu'un État puisse réglementer ses espaces numériques, culturels et médiatiques qui disparaît. C'était « Maître chez nous », un texte de François Cardinal paru le 19 avril 2026 dans la presse.